Avoir château dans le Lot. Une visite et découverte des châteaux lotois présentés par Martine Dufour et Marie-Madeleine Rey.
Bonjour chers amis auditeurs, notre balade des châteaux dans le Lot nous amène aujourd'hui à Larnagol, qui se situe donc après Sennevières et pas loin de Cajarc. Alors bonjour
Michel.
Bonjour Michel. Oui. Michel et Bruno étant les propriétaires de ce château. Donc Michel. Et bonjour Bruno. Nous sommes heureux de venir visiter votre château et d'en faire bénéficier nos auditeurs. Alors tout de suite, Bruno, si je peux me permettre. L'arrivée, c'est vrai que sur Larnagol est assez particulière. D'abord, c'est un très beau village, tout de pierre. Et lorsque nous arrivons, nous voyons pas tout de suite le château. Il faut vraiment prendre une petite rue, monter. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu la position de ce château?
La situation explique tout. Puisque nous sommes érigés, quand je dis nous, il s'agit de la maison, au centre d'une combe, d'une vaste combe, qui démarre sur un point haut, bien sûr, jusqu'au Lot. Et cette arête a naturellement servi de fondement aux diverses constructions historiques, bien sûr, à vocation défensive pendant 6-7 siècles, naturellement, qui ont démarré à partir du point le plus haut, ce qu'on appelle une motte féodale. La motte féodale, les premiers ours en bois ont été édifiés dès le 11e siècle, d'essor de l'actuelle Europe, ou du nouvel essor plutôt, et pour se poursuivre au cours des deux siècles ultérieurs. Pour de multiples raisons historiques, en 1870, le château a été coupé en deux, si bien qu'une moitié de nous-mêmes, si j'ose dire, nous sommes hémiplégiques depuis 1870.
D'accord.
L'actuelle mode féodale est devenue la mairie depuis, et la plus grande partie, la partie basse, ce qu'on appelait à l'époque château bas, tout étant relié naturellement à château haut, l'actuelle mairie, est devenue maison particulière après de nombreux soubresauts. Les multiples propriétaires, enfin ceux qui ont marqué cette maison, c'est la famille Laporte, les barons de Laporte, originaires de Figeac.
Vous remontez peut-être un peu plus, je remonterai un peu
oui,
plus en arrière.
Bon, mais vous savez, comme dans toutes nos chères provinces, le Quercy n'y échappe pas. On a 6-8 familles qui monopolisent tout pendant 6 siècles. On a mis celle tout.
Oui, on a bien compris. Oui.
Les Cardaillac ayant été naturellement
propriétaires ici,
les Barasques, les Cardaillac, toujours les mêmes.
Voilà. Alors Michel, oui.
Donc les Cardaillac propriétaires, enfin c'est les premiers dont on est la trace, mais on n'est pas tout à fait sûr. Donc propriétaires dès le XIIIe siècle. Pendant combien de temps? On ne sait pas exactement à quelle période. En tous les cas, donc les Cardaillac, et ensuite il y a un vide en quelque sorte sur des informations sur les différents propriétaires. Et on sait que ensuite la seigneurie, puisqu'il s'agit d'une seigneurie qui comportait déjà dès cette époque-là le territoire de la commune actuelle, Larnagol, Sezac, mais aussi Saint-Chel. C'était une seule seigneurie. Donc
2415 hectares.
Voilà. Et donc les Cardaillac ensuite, par le jeu des successions, la famille des Barasques, qui était propriétaire de Béduet.
Ah voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a un château aussi à Béduet.
Ah, il y a un très gros château,
voilà.
Qui d'ailleurs est en vente.
Mm-hmm.
Et ensuite, par le jeu des mariages, une fille Barasque a épousé le vicomte de Calvignac. Et donc, là aussi, ce sont les informations dont on dispose. On aura peut-être un peu plus, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, un peu plus d'informations dans quelques temps. Donc, les Calvignac sont devenus propriétaires. Et à cette époque-là, la seigneurie s'est agrandie puisqu'il y avait, ça a été une période où, en effet, il y avait Sainte-Vierre, Calvignac, l'Arnagol, le Saint-Chel, etc. Donc, c'était beaucoup plus important que ça n'est aujourd'hui. Et donc, la famille des Calvignac est restée propriétaire jusqu'à la fin du XVIe siècle. Voilà. Ensuite, on va pas rentrer dans le détail. Il y a eu par le jeu des, alors une vente à Réméré, puis bon des successions, etc. Donc pendant un demi-siècle, et on arrive au milieu du XVIIe siècle, et c'est là que la famille Laporte a acheté la seigneurie. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Bruno, parce qu'il les aime bien, donc il va vous parler d'eux. Mais je voudrais quand même dire qu'on n'est pas tout à fait sûr exactement de tous ces propriétaires, et qu'on va peut-être avoir des informations, puisque nous avons récemment découvert des décors peints avec des blasons, et qu'il y a une étude qui est en cours, et qu'il n'est pas exclu, puisque ils ont retrouvé les blasons, mais on n'a pas suffisamment, parce qu'il y en avait tout le tour, donc on n'a pas tout leur denoncement pour définir précisément le propriétaire, puisque il se répète. Mais en tous les cas, il y avait des liens avec la famille des Cajards. Donc peut-être que la maison a été à un moment donné propriétaire des Cajards. Voilà. Mm-hmm. Puis je laisse Bruno alors, parler donc, dès
la
porte.
La famille Laporte. Alors,
c'est la famille Laporte. Commence à bondir au 16e, à Figeac.
Ah oui.
Tu me laisses ? À Figeac. C'était bien sûr des paysans comme nous tous. Ils sortent de la terre, donc, si j'ose dire, au 16e, lequel reconnaît leur qualité, ils se forment, deviennent magistrats, naturellement.
Ils ont été marchands, c'était aussi une famille de marchands.
Hein. Importateurs-exportateurs, comme tous les marchands, le long des cours d'eau et affluents de grands cours d'eau en France, en Europe. Ça, c'est un principe générique, bien sûr. Mm-hmm. Naturellement, merci de m'avoir appelé. Et donc, c'est la porte connaissent de grandes émotions au XVIe siècle. Pourquoi ? C'est que tout simplement, comme vous le savez, le Quercy, et Guyenne, Aquitaine, Quercy, Bernay, a fortiori, était gagné par la lèpre huguenote, la RPR, la religion prétendument réformée, que pour ma part, j'aime bien d'ailleurs. Il y a de la rigueur là-dedans. Sur la base de l'analyse sémantique, linguistique des textes bibliques qui parvenaient de Constantinople, je passe, j'arrête. Donc, souvent des gens fort évolués. Et les Laporte en étaient parvenus, à la fin du 16e, à faire partie des rarissimes familles catholiques de Figeac.
Famille relativement importante.
Déjà, des magistrats qui socialement étaient profondément inscrits dans la vie de la cité.
D'accord.
Mais que fait-on d'un magistrat catholique dans une cité huguenote ? vous savez, je crois pas, enfin bon, il y a côté stalinien dans l'impression sociale, ces sociétés profondément religieuses passaient très facilement à l'oppression sociale. L'exemple le plus rapide, ce sont ces 8 piqûres, le terme est gentil, en 60 ans en France, dans l'actuel Hexagone, qu'on a qualifié de guerre de religion, qui ont été d'une cruauté, d'une violence, qu'on imagine mal. Alors, il se trouve que l'un de mes vieux amis, qui n'est plus de ce monde, descendait d'une famille huguenote qui a été... illustre par ses cruautés à l'égard des catholiques. Bon, passons. Les Laporte se sont auto-exilés à un moment de Figeac. Le climat social était intolérable. Et les chères armées royales Donc, le grand cardinal aidant, naturellement. On reconquit toutes les places fortes huguenotes. L'édit de Nantes de 1598 prévoyait une cinquantaine, 52 je crois, place de ce qu'on appelait place de sûreté dans ce pays. La place de sûreté étant auto-administrée par les huguenots. Le pouvoir royal n'ayant pas la parole, pouvoir central non existant. Je passe sur cette, c'est une période assez passionnante d'ailleurs, qui va aussi loin que la révolution dite française, deux siècles plus tard. Et donc, nous l'apporte, cet auto-exil, et les chères armées du grand cardinal qui avait doublé déjà la pression fiscale, qui n'était pas trop horrible dans ce pays par rapport à bien d'autres, pour armer et entraîner des troupes royales, des armées royales efficaces, on envoie une sur Figeac et bien sûr l'aval d'un coup d'un seul, ce qui veut dire la capitulation s'accompagnant essentiellement, il faut le rappeler tout de même, une violence classique à l'époque, démantèlement des murailles, naturellement, on comble les fossés, l'aspect défensif, et l'aspect humain, ben, c'est qu'on pille, on viole, on massacre. Voilà. Le sang a beaucoup coulé à Figeac, et Ford, l'encadrement social avait disparu, ou pas loin, si bien que quelques notables avisés ont eu le bon goût de rappeler le cher Laporte, coucou c'est nous. Et y a-t-il un lien de cause à effet, une vingtaine d'années plus tard, ils ont été crédités de l'aide de noblesse. Bon.
Mais on ne sait pas vraiment. En tous les cas, on constate que tout d'un coup, une particule et des armes. Ce qui est intéressant, par contre, c'est les armes. Parce que les armes, c'est une croix soutenue par deux étais. Donc, soutien de la religion.
Inconditionnel.
Voilà.
C'est très fort.
Donc c'est très fort et je pense que ça a joué. Enfin, on n'a pas d'informations. Il faudrait qu'on creuse plus, mais sur la famille. Mais elle a sans doute été anoblie. Elle avait des moyens. Elle était assez riche, etc. Mais elle a été anoblie à ce moment-là.
Vous parlez de l'époque entre Louis XIII et Henri IV.
On n'est pas tout à fait certain, mais en tous les cas, fin 16e, début du 17e.
Voilà.
Puisque au 17e, ils portaient une particule et des armes, et ils étaient
légitimes.
Et ils étaient recensés nobles. Donc, voilà.
Grand arme royale de France.
Voilà. Donc, ils étaient, il faudrait que je pense que oui, fin 17e, ils étaient déjà recensés au Grand Armorial. Donc, voilà.
Oui, mais là, on est plus loin.
Alors, on revient à l'Arnagol. Tu reprends, donc en 1634, ils achètent la seigneurie.
Ils achètent la propriété.
Oui, en fait, c'est le vicomte de Calvignat qui avait eu, ensuite, c'était passé à la famille des Sessac, et lors d'une... je pense que c'est une succession. Il y a un éclatement de ce regroupement de terres, et Sennevières va être à part, Calvignac à part, et eux ils achètent l'Arnagol, Sezac, Saint-Chel.
Voilà. D'accord.
Saint-Chel, deux métairies dont l'une existe toujours, une métairie du 17e. Donc nous la porte font un. C'est ainsi qu'on perçoit de manière moderne, donc avec toutes les réserves qui s'imposent, moderne, contemporaine, c'était un investissement économique, qui en même temps confortait leur rang social, bien évidemment. Investissement économique, pourquoi le Sirovignola, comme disait Rabelais, la vigne est en Rennes, la vigne était partout.
Et oui.
Donc, rentabilité, privilège sur le passage du Lot, octroi, droits seigneuriaux, haute, basse et moyenne justice. D'ailleurs, on verra la pièce à fresque du donjon, c'est là que tout se passait. En latin, c'est l'aula. C'est là que se déroulait ce type de cérémonie. Et que l'espace devait rester structurellement à la disposition du suzerain. De même que dans tous les châteaux de France, vous avez la chambre du roi. Des châteaux d'une certaine importance, beaucoup plus importants que... Bon. Ici. Donc, nous, la porte, pour aller très vite, détiennent la propriété jusqu'en 1638 à peu près. Étienne Alexandre, donc mon la propre
préférée. Qu'est-ce que tu dis? Tu as dit 1638.
1838.
Ah, j'ai pas bien entendu.
Bien sûr.
J'ai pas bien entendu.
La dernière descendante, donc une femme, Marie-Paul.
Marguerite Paul.
Marguerite Paul, voilà. Ayant elle-même épousé un
Régnès.
Un Régnès, donc près de Toulouse, le château Régnès.
Oui, oui.
Monsieur de Régnès, homme charmant. Ex-commandant second du France, tout de même. cette famille Régnès détient toujours le château de
Régnès.
Voilà, de l'ex-Laporte. Et bon, alors dans une période ramassée, comme toutes ces maisons en France, notamment compte tenu de notre chère révolution, connaissent des destins divers et variés. Ce type de maison détenue par 10 propriétaires, dont un carrier dont le propos était de démolir et de revendre les blocs. D'ailleurs, cette maison, on a perdu pas mal, qu'on retrouve dans un rayon d'une dizaine de kilomètres. Voilà, la saignée, si j'ose dire, s'arrête, elle se poursuit longtemps. Et c'est en 1923-24 qu'un inconnu, qui est un palissy, comme on dit dans la région, n'est-ce pas, un sale parisien, qui plus est, d'origine extrêmement humble au seigneur, mais grand talent et grand commerçant, qui s'appelait Raymond Sub. Alors Raymond Sub, en deux mots, a atteint très vite une notoriété internationale de ferronnier d'art. Il est mort en 1971 d'un accident de voiture par équipe de France, peu importe. Mais entre 1924-25, et vous verrez ici la grille au coq, qui est un superbe travail, a été, avec Edgar Brandt, qui était un type génial aussi, son ennemi intime, naturellement. Donc le propriétaire de cette maison jusqu'à sa mort en 1971, et sa seconde femme, elle, avait un tel amour des enfants d'un premier lit de Raymond Sub, que elle a interdit, ah mais si, c'est diablement important, elle a interdit à ses beaux enfants, puisqu'elle avait hérité de l'usufruit, le principal allant aux enfants de premier lit, elle a interdit l'accès à la maison pendant plus de 30 ans.
Donc elle a été abandonnée pendant 30 ans.
Donc cet actuel château a été abandonné pendant 30 ans.
D'accord, voilà.
C'était un petit peu un petit peu la suite.
Ça, c'est important.
Voilà. Alors, jusqu'en 2000 à peu près.
Oui, absolument. Ça a été. Alors bon, les descendants de Marie-Charles Sub, enfin c'est son fils du moins, a été promu gardien pendant combien, 7 ans, 8 ans?
Non, même pas.
Même
3, 4
pas.
Ans.
Ouais, bon. Et la famille Sub a fini par vendre en 2011. Donc nous acharnons depuis 10 ans à restaurer, réhabiliter. J'ai l'habitude de dire une demi-ruine, on peut oublier le demi. Parce que plus on en fait, plus on en découvre.
C'est sûr.
Ça, c'est le mécanisme
donc,
classique.
Moi, j'ai envie, si vous voulez bien, de revenir sur la période quand même des Laporte qui ont quand même modifié beaucoup le bâtiment. C'est-à-dire que jusque à la fin du XVIe, il y a eu la période donc jusqu'au XIVe où il y a une partie seulement du bâtiment. Jusqu'à ce qu'on sait, parce qu'on a découvert des choses récemment qui nous laissent penser qu'il y avait une autre partie dont on n'a jamais eu trace, et c'était peut-être plus grand qu'on ne l'imagine. En tous les cas, la partie donjon, donc qui est de l'autre côté de la cage d'escalier, donc ça, on est absolument sûr, et c'était resté comme ça jusque à la fin du XVIe, voire au XVIIe. Et c'est lorsque les Laporte n'ont pas, pendant les deux premières générations, n'ont pas fait grand-chose, et ça n'est que le petit-fils de Pierre de Laporte qui avait acheté, Jean de Laporte, qui va transformer complètement cette maison. Mmh. C'est important. C'est-à-dire qu'il va inclure la partie 14e qui avait évolué au 16e, sauf qu'on ne sait pas comment c'était au 16e, on n'a pas de documents. Mais c'était donc la partie donjon. Et il va d'abord, dans un premier temps, refaire une cage d'escalier et ensuite créer cette aile qui est complètement contre le rocher, c'est-à-dire qui taille le rocher.
Donc c'est-à-dire là où nous sommes actuellement, là, dans voilà, cette cuisine.
Voilà, donc ça va être, en fait, c'est, vous voyez, c'est un bâtiment qui n'est pas très profond et qui donne l'impression et qui donne une impression de dimension vue de l'extérieur. Mais en fait, cette partie-là a été ajoutée au tout début du 18e, avant 1711. Voilà. Puisque, voilà, avant...
Oui, sur le linteau de la porte, il y a
1711, c'est la fin de cette campagne de travaux.
1711, 9 ans de travaux continus. Mm-hmm. Et très intelligemment, excuse-moi, c'est d'une ingéniosité, j'ai envie de dire diabolique, mais on admire le savoir-faire, la conception globale, puisque d'un côté, c'est-à-dire du côté du Caos, qui était extrêmement abrupt, ils décaissent, ils en font une carrière de pierre pour, d'une part, créer ces jardins dits à l'italienne avec ces escaliers qui se recoupent, etc., et ces quatre terrasses, et d'autre part, grâce aux pierres taillées en face de la cuisine où nous trouvons, surélever toute la partie.
Construire ce bâtiment. Donc il y avait les pierres de la falaise qu'on avait taillée, plus les pierres de l'autre côté.
Et nous sommes à 19 mètres du faîte, et donc sur 17 mètres, grâce aux pierres taillées sur le Caus, en face de nous, ils surélèvent la partie gauche.
Mais à cette époque-là aussi, ce qui est important de dire, c'est qu'une des raisons, très certainement, de la construction de ce château, c'est qu'il y avait de l'eau. On a des sources. Et que ils ont restructuré, mais ils ont fait des bassins là-haut. Alors des bassins, c'était des bassins pour recueillir l'eau. Et en même temps, à ce moment-là, ils ont créé des canalisations. Ce qui fait qu'il y avait, ce qui est quand même très rare, au début du 18e, il y avait l'eau.
Courante.
L'eau courante à l'évier. Il y avait un point d'eau.
L'eau courante est arrivée, je l'ai appelée stupéfaction, comme toi probablement, à l'Arnagole en 1957. Début du 18e, la première eau courante sans doute.
Voilà, qui venait, et on peut, on comprend aussi pourquoi ils ont travaillé de l'autre côté, pour récupérer, structurer, organiser la gestion de l'eau.
On comprend, voilà, ça
date donc du 17e.
Du début du 18e.
Début du 18e, 1702.
Alors, il y a deux périodes apparemment dans les jardins. D'ailleurs, quand on regarde bien, quand on a fait les travaux, là, on a refait tous les murs, enfin, on les a restaurés l'année dernière. Et par endroits, on voit bien, c'était sans doute au tout début des murs un peu moins hauts, un peu moins profonds, puisqu'on retrouve d'autres murs qu'en creusant, on a retrouvé. Il y a eu sans doute deux périodes, comme toute la maison ici, début du 18e, et puis deuxième partie du 18e, quand le plus jeune fils de Jean de Laporte, donc Étienne-Alexandre de Laporte, qui, entre-temps, avait prospéré réellement sur le plan économique, a modifié la maison. C'est-à-dire, il a reconstruit les écuries, il a construit un chai.
Il a rajouté une aile de plein pied en retour d'équerre du donjon.
Voilà.
Et en créant, qui se termine par une orangerie, ce qui est
Et il a fait des tas de travaux qualitatifs, dont, enfin, d'embellissement en quelque sorte, dont la grille, parce qu'il y a une facture, on sait, la grille qui va au jardin, donc il a travaillé aussi sur les jardins. Et on ne sait pas, peut-être que les escaliers tels qu'ils sont ont peut-être été revus à cette époque. Nous, on vient de les refaire entièrement parce que.
D'accord.
Depuis le 18e, ils avaient gelé.
Voilà. Donc, si je comprends bien, il y a deux grandes périodes de restauration. Et là, vous continuez aujourd'hui.
Sauf que nous, on ajoute, on ne fait que respecter remettre
le bâtiment. Vous restaurez ce qui existe déjà.
L'état initial.
Vous ne rajoutez pas, effectivement, comme les deux autres.
Enfin, on va rajouter une pièce, mais c'est une pièce qui est effondrée. Mais sinon, on ne modifie pas.
Voilà.
Bon, il faut que vous sachiez quand même, le bâtiment est totalement inscrit au titre des monuments historiques, intérieur et extérieur.
D'accord.
Donc, ça veut dire qu'on est terriblement encadré pour les travaux, puisque toutes les pièces, quelles que soient les pièces, pour faire des travaux, nous avons besoin de l'autorisation. Mmh. Et donc, nous ne pouvons pas transformer. Mmh. Donc, nous avons transformé le moins possible. Mmh. Sauf les pièces très fonctionnelles, comme les salles de bain. Mmh.
Tout à fait. Et actuellement, ce château est ouvert au public.
Oui.
Donc, les personnes qui souhaiteraient visiter ce château peuvent venir. Donc, à quelle époque vous ouvrez ?
Les dates exactes, on les trouve sur le... printemps. Jusqu'au mois de novembre, et hors saison, puisque nous habitons là, nous accueillons sur réservation, mais uniquement des groupes au moins 6 personnes, parce que bon, du coup, on ouvre, on chauffe, voilà. Donc, même en ce moment, on peut accueillir des gens dès lors qu'ils prennent rendez-vous et par téléphone et qu'ils sont au moins 6. Donc, en gros, on peut dire qu'on est quasiment ouvert toute l'année.
Voilà. Oui, un détail près sur
voilà,
quelques semaines.
Après, bon, alors en été, bien sûr.
Et au niveau, donc là, c'est les visites, on va dire, du public, mais est-ce qu'il y a des activités particulières culturelles ? Est-ce que vous organisez des concerts ou y a-t-il des concerts ou autres ?
Alors déjà, il y a deux choses. Nous avons également, nous accueillons des hôtes. Donc nous avons aujourd'hui une suite en chambre d'hôte et on en aura deux autres, mais elles sont en travaux. Et nous avons par ailleurs, en effet, nous organisons, on l'a pas fait ces deux dernières années parce que c'était compliqué, mais en effet, on organise des concerts.
Oui, pendant 8 ans, nous avons organisé des concerts tout à fait intemporels, puisque c'est de la musique dite classique, que nous avons la chance d'avoir facteur de piano dans le
voisinage.
Dans le voisinage, avec lequel on s'entend bien et qui d'ailleurs généralement nous a présenté de bons voire excellents
interprètes.
Je ne dirai pas le nom de la dame en question, pas de publicité indue, mais elle a laissé un souvenir, je n'exagère pas, très sensible dans le voisinage. Elle est venue ici pour deux soirées, elle était remarquable, c'est une mezzo. Deux mois et demi plus tard, elle était soliste à la Chapelle Royale de Versailles et une carrière internationale absolument éblouissante.
Effectivement.
On cherche quand même à essayer de faire des choses de qualité. Et la deuxième chose, donc le but est culturel, mais il est également aussi de nouer des échanges ou de développer les échanges entre les gens qui habitent dans le coin.
D'accord.
Donc, non seulement on fait un concert, mais ça se termine toujours après par un buffet, de façon, et en fait c'est des soirées entières, de façon à ce que les gens aient le temps de se rencontrer, de rencontrer les artistes, et bon, on fait ça en général dehors sur la terrasse.
Et de discuter peut-être des produits du coin.
Bien sûr.
Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cette première émission de nous avoir parlé de tout ce bel historique important qui était à signaler et à dire et à faire connaître à nos chers amis auditeurs. Merci de nous avoir reçus. Merci Michel. À bientôt.
À bientôt.
Merci Bruno. À bientôt.
À bientôt.
Merci Marie-Madeleine, ma consoeur. À très bientôt. Bien sûr, nous revenons donc la semaine prochaine au château de l'Arnagol parce que c'est une richesse extraordinaire dont nous allons vous faire découvrir cette ampleur. Merci de nous avoir écoutés et donc à la semaine prochaine pour une suite au château de l'Arnagol. Au revoir à tous.
C'était À voir château dans le Lot, une visite et découverte des châteaux lotois présentés par Martine Dufour et Marie-Madeleine Reille.